voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, je voudrais attirer votre attention dans cette rubrique sur deux volumes de la fameuse collection Bouquins. Collection créée par Guy Scheller et dirigée aujourd'hui par Daniel Rondeau et publiée par les éditions Robert Laffont. En feuilletant le catalogue de l'automne 2008, j'ai trouvé deux bouquins offrant des œuvres d'académiciens et non des moindres que je me propose de vous faire découvrir. Tout d'abord, un volume consacré à Jean d'Ormesson. Cinq de ses œuvres seulement, sur une trentaine, sont regroupées dans cet unique volume et c'est une bonne idée parce que les œuvres réunies sont de genres différents et donnent ainsi une large palette des talents de l'écrivain et de ses différents styles d'écriture. Disons que ce volume pourrait servir d'excellente introduction ou d'initiation à l'œuvre de Jean d'Ormesson au cas où, un certain, il est vrai, on ne l'aurait pas encore lu. Il y a un essai ou un récit autobiographique qui s'intitule « Du côté de chez Jean ». C'est un essai qui a été écrit dans sa jeunesse, en 1959. Enfin, Jean d'Ormesson, qui est né en 1925, avait donc à l'époque 34 ans. Il y a aussi dans ce volume trois études littéraires qui constituent en vérité le cœur de ce volume. « Mon dernier rêve sera pour vous », qui est une biographie sentimentale de Chateaubriand et qui était parue en 1982. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Qui, selon l'auteur, n'est pas une anthologie de la poésie française, mais disons un recueil de ses coups de cœur pour les poètes, paru lui en 2003. Et les deux tomes de son autre histoire de la littérature française, qui date de 1997 et 98, et qui dépoussière tant d'auteurs classiques pour nous aider à retrouver le plaisir de les lire. Et enfin, il y a un roman, il en fallait au moins un, « Voyez comme on danse », paru en 2001, qui trace le portrait d'un jeune homme ou d'un homme qui était égyptien, nous apprend d'Ormesson, et je le cite, cet homme jetait autour de lui une lumière du matin. Ce bouquin consacré à d'Ormesson, 1344 pages s'il vous plaît, s'intitule « La vie ne suffit pas, œuvre choisie de Jean d'Ormesson. Il est préfacé par l'auteur qui s'explique sur le choix de ses textes, d'abord sur sa passion pour Chateaubriand, qu'il dit avoir suivi pas à pas durant quelque 80 ans, ceux de Chateaubriand bien sûr, et les siens peut-être maintenant aussi, et puis sur tous les auteurs qu'il aime, en suivant un seul principe, le plaisir, au cœur de toutes les œuvres. Et faut-il rappeler la phrase de Jean d'Ormesson ? J'ai toujours soutenu que la littérature n'était ni un devoir, ni une corvée, ni une pédanterie laborieuse, mais un plaisir, aussi haut qu'on voudra, aussi profond qu'on pourra, mais d'abord un plaisir. Alors on ne peut résister ici à vous offrir la lecture de quelques passages de « Du côté de chez Jean ». Une phrase par-ci, par-là, mais quelques phrases tout de même, parce qu'elles sont vraiment réjouissantes. Et je l'ai dit, c'est un livre de jeunesse dans lequel d'Ormesson passe en revue plusieurs thèmes. Il ne raconte pas sa vie, mais peut-être un désir, celui de choquer, de scandaliser, de se montrer cynique, et certainement aussi celui de séduire, d'être admiré, d'être aimé. Alors le premier chapitre, intitulé « De ma bêtise », vous allez l'entendre, le ton est donné.
« Ma stupidité m'atterre. Je m'en consolerai aisément si j'étais très beau ou très riche. Mais d'une allure médiocre et d'une fortune moyenne, je m'inquiète de me sentir en outre incapable d'être Dante, Aristote ou Saint Paul. Ce n'est pas que j'attache une importance particulière à fonder des religions ou à écrire des métaphysiques. Se promener en yacht ou ne rien faire me semble infiniment plus plaisant. Mais il faut bien tenter, d'une façon ou d'une autre, de se distinguer de ses pareils. Rien n'est plus ennuyeux que l'anonymat lorsqu'il n'est pas volontaire. Mener la vie de tout le monde est évidemment insupportable. »
Et ça continue, n'est-ce pas, Fernand ?
« Ni beau, ni vilain, ni riche, ni pauvre, et connu de 500 personnes sur un total de 2,795 milliards, il ne me restait d'évidence, poussé par l'ambition, la paresse et la tradition, qu'à me jeter à corps perdu pour donner quelque éclat à ma vie dans ces activités de l'esprit que je méprisais plus tôt. Longtemps, je n'ai mis ma confiance que dans le génie. Je ne m'imaginais point en avoir, mais je me croyais chaque jour à la veille d'en acquérir. Je feignais de m'intéresser exclusivement à l'existence de Dieu ou aux fins dernières de l'homme. Cela m'ennuyait à périr, mais cela me faisait vivre d'ivresse et d'espoir chimérique. Il arrive pourtant un moment où, pour un esprit un peu lucide et relativement honnête, les illusions et le mensonge ne tiennent plus contre la marée méchante des faits. Je n'ai pas de génie, je suis idiot. Au moins, ai-je vite compris, du fond même de ma savante bêtise, que décliner Rosa, j'y excellais, était peu de chose auprès de sauter le mur pour s'enfoncer dans l'aventure et participer à ces prodigieuses expéditions nocturnes qui me fascinaient secrètement. Pendant que je remportais tous les prix, je n'enviais que les derniers de la classe, dont seule l'estime m'importait. Voir le monde et en jouir me sembla bientôt plus important que le comprendre. Il m'apparaissait en un éclair qu'il était plus utile pour devenir Alcibiade d'arracher les plaques des rues et de savoir par cœur les répliques du jour se lève ou des enfants terribles que d'annonner par cœur Cicéron. Il me fallait apprendre à couper les queues des chiens. Mais j'avais peur, j'étais lâche, j'étais bête. Je faisais des thèmes par paresse et par crainte. Je sus assez vite que les motifs des bonnes actions, ce sont souvent des vices médiocres. J'allais au concours général parce que je craignais les pions. J'étais imbattable en histoire ancienne parce que je n'apprenais pas à vivre. J'étais le premier de ma classe, c'était sinistre.
Rappelons-le, ces passages de Du côté de chez Jean ne sont pas totalement biographiques, mais tout de même, on y retrouve un peu de l'élégance de Jean d'Ormesson. Dans le chapitre 2, qui s'intitule « Du désordre et de la révolte », il relate son refus de tout système. Et dans le chapitre 3 aussi, « J'étouffais dans le désordre ».
J'étouffais dans le désordre. Une grande lassitude me tombait sur les épaules. Je ne pouvais plus porter le poids de tant d'efforts concertés pour aller contre le premier mouvement, contre le banal, contre cette sécurité méprisable. Comme c'était fatigant d'être toujours contre les choses. C'est en me séparant de la bande que je renonçais au désordre. Car le désordre, aujourd'hui, est une preuve de solidarité. On ne s'y livre pas seul. Le jour où je décidai d'être seul, j'abandonnais le désordre, tel du moins que le définit notre temps. Peut-être ne faisais-je qu'en retrouver un autre aspect. Mais ce désordre que j'avais connu, ce désordre de la pureté, de l'intransigeance, de l'amitié, ce désordre indomptable, ce désordre de la jeunesse et de la solidarité, ce désordre-là était fini pour moi. J'étais seul, j'étais libre de tout système, de toute règle, et je m'éloignais du désordre comme d'une grande chose que je n'avais peut-être pas été capable de supporter. »
Dans le quatrième chapitre de « Du côté de chez Jean » que nous sommes en train de lire, il aborde le refus de penser.
« Incapable de rien faire de moi-même, trop instable pour m'enfermer et dedans et dehors, aussi fatigué de réfléchir pour trouver les choses bonnes que pour les trouver mauvaises, il ne me restait qu'à reconnaître, une fois de plus, que je n'étais guère à mon aise dans un monde trop grand pour moi. Il ne me plaisait plus de lutter. » Je n'avais plus d'opinion sur ce qui passionne les hommes, la justice, le droit de propriété, le code de la politesse mondaine et les matchs de football. Je me demandais ce que j'étais allé faire à la recherche de principes ou de motifs de fureur. La stupidité dont j'étais parti me parut, au fond, une bonne chose et une possibilité de bonheur à condition de s'en servir savamment. Elle me permettait de mesurer, j'allais dire de haut, mettons plutôt d'en bas, l'insanité d'une agitation humaine qui se fondait sur des découvertes, des théories et des idées. C'était à mourir de rire.
Dans le chapitre suivant, il passe à l'indépendance.
Approchez-vous, écoutez, Je ne refuserai ni la Légion d'honneur, si on me la donne, ni le prix Goncourt, si on me le décerne parfaitement. Ce chèque de 5 000 francs qu'il est de bon ton, je crois, de rejeter avec mépris tout en empochant les millions de droits d'auteur qu'il entraîne dans son sillage, je le fourrerai sans honte dans mon portefeuille. Et si l'on m'offre plus, j'accepterai plus. Et si un jour, d'aventure, cela est un appel du pied, ni plus ni moins, l'Académie française, dans un instant de somnolence, me proposait un fauteuil, oh là là, mes amis, mes pauvres amis, mais je m'y ruerais. Quoi ? Des gens charmants, pas plus bêtes qu'ailleurs, parfaite politesse, une urbanité exquise, et la droite dans tous les dîners. Le désordre consiste à dire à 20 ans qu'on n'entrera jamais à l'Académie parce que ce sont tous des crétins, et à y entrer à 60. L'indépendance se consolerait fort bien d'y être reçue vers 35 ans.
Mais ce n'est pas à 35 ans que Jean d'Ormesson sera reçu à l'Académie française. Je rappelle qu'il a écrit ce petit passage dans « Du côté de chez Jean » en 1959 et qu'il sera élu à l'Académie française en 1973 au fauteuil de Jules Romain. Alors, dernier petit passage, sans doute, Fernand Guillot, le chapitre 6, qui parle, lui, de la contradiction.
Le nombre de romans et de pièces de théâtre que j'ai entrepris et arrêté vers la 30e page commence à n'être plus négligeable. Mais ce n'était jamais le chef-d'œuvre souhaité, celui qui me ferait un nom d'un coup dans le monde des lettres et ferait saluer en moi le successeur de Proust, de Radiguet et d'Aragon. Alors, j'aimais mieux m'arrêter, mais non pas renoncer définitivement à noircir du papier. Et je recommençais autre chose, un nouveau roman, une nouvelle pièce de théâtre, et je sentais au bout de quelques pages d'enthousiasme monter de nouveau le découragement. Contradiction.
Dans les derniers chapitres de Du côté de chez Jean, donc Jean d'Ormesson évoquait l'argent, le sommeil, la paresse, l'ambition et la gloire, l'amour bien sûr, l'ennui et bien d'autres thèmes. Et d'ailleurs, j'ai relevé cette phrase sur l'égoïsme. « Mon égoïsme est plein de bonne humeur ». Les formules de Jean d'Ormesson sont toujours très, très amusantes. Alors, ce bouquin « La vie ne suffit pas » de Jean d'Ormesson, œuvre choisie, est donc, vous l'avez compris, un plaisir de lire ou de relire Jean d'Ormesson, de partager avec lui ses passions, ses amitiés, ses enchantements, ses commentaires, ses souvenirs. L'autre bouquin que je découvre, toujours dans ce catalogue de bouquins de l'automne 2008, présente la correspondance de Georges Clémenceau, de 1858 à 1929. C'est une édition établie et annotée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France par Sylvie Brodziak, maître de conférences de littérature française à l'Université de Cergy-Pontoise, et par Jean-Noël Jeannenet, ancien ministre, qui fut président de Radio France et de cette Bibliothèque nationale, justement. Et cette correspondance nous fait découvrir le côté intime d'un homme public dont le rôle dans l'histoire du Second Empire et jusqu'à la victoire de 1918 a été capital, on le sait. Ici, les lettres reproduites, 1300 lettres et pour une grande part inédites, nous font entrer dans l'univers personnel de Clémenceau, familial, amical et amoureux même, dans son intimité intellectuelle et affective. Elle n'évoque pas ou très peu les grands événements de l'histoire auxquels il a participé, mais éclaire sa personnalité et notamment son sens de l'amitié. On lira avec émotion les lettres qu'il adressait à Marguerite Baldensperger. Il fit sa connaissance en 1923, elle a 40 ans de moins que lui, et un jour, remarquant qu'elle porte le deuil, il apprend qu'elle a perdu sa fille. Alors Clémenceau lui déclare
« Je vais beaucoup penser à vous. Il faut reprendre le goût de la vie. Il faut lutter. Je vous aiderai. Mettez votre main dans la mienne. » Voilà, je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. Tel est notre pacte. Embrassons-nous.
Ils vont s'écrire au moins une fois par jour. 668 lettres de Clémenceau nous sont ainsi parvenues et elles témoignent d'une amitié tout à fait exceptionnelle. Mais l'autre ami, le grand ami de Georges Clemenceau, c'est le peintre Claude Monet. Et c'est l'un des mérites de ce bouquin que de nous permettre de suivre presque au jour le jour l'attention que Clemenceau portait à Monet, qui avait peur de devenir aveugle. Une attention affectueuse, fidèle, réconfortante, chaleureuse, mais grondeuse aussi quand il le faut, et compétente, puisque je le rappelle au passage, Clemenceau était médecin. En voici un seul exemple tiré de la bonne centaine de lettres qu'il adressa à l'artiste. Celle-ci est datée de Saint-Vincent-sur-Jard, c'est en Vendée, en mai 1922.
« Cher ami, je suis bien ennuyé de ce que vous me dites de votre vue, mais je vous ai connu de ces moments, et cela s'est amélioré. Vous ne perdrez jamais la vue, parce qu'il suffira d'une opération pour vous la rendre. » Si vous pourrez peindre après l'opération, c'est possible. Je ne peux rien dire de plus. Je vous dirai mon point de vue. J'irai déjeuner dimanche. Je crains que l'ange bleu, suivant son habitude, ne me mette dans la nécessité d'emporter mes pommes de terre. Tout crevant de maladie, je me porte bien. Mais qu'est-ce que c'est brut vont faire de notre malheureux pays. À vous et à l'ange. »
Et dans une autre lettre qu'il adresse à Claude Monet, datée de Paris, le 1er mars 1924.
« Mon pauvre vieux Maboule, je crois vraiment que je vous aime mieux quand vous êtes stupide. Malgré le plaisir de vous aimer, je voudrais que ce ne fût pas trop souvent. Vous êtes arrivé une cataracte double. » Mais ces choses-là arrivent à tout le monde. Vous l'avez plus cruellement ressenti parce que vous êtes un artiste hors de pair et que vous avez entrepris, quand votre vue défaille, de faire plus beau qu'avec vos deux yeux. Le plus admirable, c'est que vous y avez réussi. Voilà les éléments de votre présent malheur. Vous avez passé votre vie entre des crises de succès et des réactions de défiance envers vous-même. C'est la condition même de votre triomphe. Cela continue avec l'aggravation d'une rétine surmenée. Vous avez décidé que votre œuvre, interrompue quand vous avez été à bout de course, serait reprise avec une demi-vue. Et vous avez trouvé moyen de produire un chef-d'œuvre achevé. Je parle du panneau du nuage. Et de merveilleuses préparations. Là-dessus, Monet s'est dit, il n'y a que continuer, mais le bon Dieu lui-même vous dira qu'il ne peut pas faire des miracles tout le temps. Vous n'êtes qu'un homme, mon ami, et j'en éprouve une grande joie, car si vous étiez Dieu, vous seriez bien embêtant. Heureuse imperfection. Vous accusez un temps d'arrêt, d'art ou de science, c'est la condition de toute activité. Dans votre cas, cela est imputable à des défaillances de la vue ou de la puissance de la création, j'en sais rien. Un très prochain avenir pourra vous fixer là-dessus. J'ai lu l'excellent article de la revue des Deux Mondes. C'est ce qu'on a fait de mieux sur vous. Mais comme le critique n'a pas vu vos panneaux qui sont le plus prodigieux assemblage d'observation et d'imagination, l'aspect de la création monétique lui a échappé. Dans vos derniers panneaux, j'ai trouvé la même puissance créatrice. Peut-être encore plus haut monté.
Et enfin, je vous propose la dernière lettre que Clemenceau écrira à Claude Monet. Elle est datée de Saint-Vincent-sur-Jard, en Vendée, toujours, le 21 septembre 1926. Monet mourra le 5 décembre de cette année-là.
« Mon cher bon vieux, vous êtes un assez bon type, malgré vos innombrables défauts. Votre lettre m'a causé une joie qui s'est trahie par des gestes désordonnés, car je vous voyais enfin rebondir. J'étais sûr que vous aviez dans votre crâne incohérent une dose d'élasticité. Dans un opéra de ma jeunesse, on voyait un monsieur avec plume au bonnet venir devant le trou du souffleur pour crier « Je suis Guillaume Tell, enfin !» sur quoi tout le monde applaudissait. Seulement, au lieu de placer une pomme sur la tête de Michel, vous dévorez la première blanche hermine qui vous tombe sous la main. C'est pourquoi je me tiens à distance. Heureusement, tout est changé. Je suis diablement content de l'apprendre de vous-même. Nous sommes bons si vous persévérez dans cet état d'esprit. Vous allez réformer votre jardin. Vous avez déjà mis un chemin de fer. Peut-être pensez-vous à une ligne de bateau comme à Genève. J'en avertirais bien volontiers la Société des Nations qui se ferait un plaisir de venir écarter toute cause de guerre entre Giverny et Vernon. Quant à vos tableaux, je ne doute pas que vous n'ayez quelque nouvelle idée dans la tête. Mais je crois que la sagesse serait de vous donner le temps d'en changer comme de chemise. Vous pourriez les promettre à la Chine et les donner à Saint-Dominique, avec obligation de les exposer à Java, dans une chambre sans fenêtre. Aussi longtemps que vous agiterez de pareilles idées, je suis tranquille, c'est que vous vous portez bien. Ne vous gênez donc pas, ô vous, l'un des sept sages de Charenton. Faites tout ce qu'il vous plaira, hormis d'aller tout droit devant vous. Moi, cependant, comme un vieux moulin décélé dont la mer a emporté la meule, j'agite des moignons d'ailes qui font peur aux papillons. C'est-à-dire que je suis aussi fou que vous, mais je n'ai pas la même folie. Voilà pourquoi nous nous entendrons jusqu'au bout. Je vous embrasse tous.
Georges Clemenceau, le tigre, le tombeur de ministère, le père la victoire, toutes ces appellations qui ont collé à son image d'homme énergique, ce qu'il était incontestablement, ont caché souvent l'autre aspect de l'homme, sa sensibilité, sa complexité. Et cette correspondance nous le restitue. Clemenceau, épistolier de haut vol, fut élu à l'Académie française en 1918, il avait donc 77 ans, et l'histoire raconte que durant les 11 années où il fut académicien, il ne siégea jamais sous la coupole de peur d'y rencontrer son bon ennemi Raymond Poincaré. Cependant, cette élection, ne serait-ce que sur le plan littéraire, était tout à fait justifiée tant il fait preuve d'un évident talent d'écriture. D'abord, il fut longtemps journaliste, adepte du texte incisif, et à plusieurs reprises, il a exprimé son goût du mot juste, de la syntaxe héritée du latin et du grec, son amour de la littérature et de la langue française. Clemenceau est un véritable écrivain, trop méconnu, et ce bouquin nous entr'ouvre la porte de son œuvre littéraire par le biais de la correspondance. Je souligne également que le portrait d'un homme libre, portrait de Clemenceau par Jean-Noël Jeannenet, si loin de la caricature, est un vrai régal de clarté, d'objectivité, avec sympathie mais sans complaisance. En 50 pages, on a tout compris, on a saisi l'essentiel, on a découvert l'homme dans son temps, et Dieu sait si ce temps fut bousculé, et l'homme dans ses engagements. Merci à Fernand Guillot d'avoir assuré les lectures de cette émission à voix lue. Un troisième bouquin relatif à François Mauriac est annoncé. Il fera l'objet d'une autre émission. On se retrouvera donc bientôt.